être dans la misère d'un homme et d'un enfant et d'un adolescent. Toujours ce que disait Don Bosco, rechercher le lieu accessible au bien. Et Don Bosco était toujours comme ça, il cherchait dans la harpe la seule petite corde qui était mélodieuse, même si toutes les autres étaient défaillantes. Il disait, voilà, il y a toujours dans un jeune, même en ravage spirituel, quelque chose qui est accessible à Dieu. Et c'est ça qu'on doit chercher dans ces petites canailles que parfois on a sur notre chemin. C'est l'amour de Dieu qui est quand même présent. Et le message de l'Église qui demande, notamment dans le Concile Vatican II, cette option préférentielle pour les pauvres et les petits, ça a percuté mon cœur. Et ça me brûlait les mains, ça me brûlait le cœur, ça me brûlait l'intelligence, l'esprit. Et très rapidement, je me suis tourné vers ces garçons, ces filles qui parfois sont dans des situations terribles et qui sont autour de nous. Ces canailles, ce sont ceux qui veulent se suicider, ceux qui sont rebellés, ceux qui sont tristes, qui n'ont pas Dieu et dont personne ne veut.
Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez appris au contact des gens de la rue ?
C'est la miséricorde de Dieu qui passe à travers nos cœurs, à nous, d'enfants de Dieu, de chrétiens, qui n'a pas de limite. Et les gens de la rue qui sont rugueux, qui sont acariâtres, qui sont complètement pétés de l'intérieur, si on peut dire, m'ont appris, moi je crois, la patience, qui est un fruit délicieux de la miséricorde. Forcément, ça nous apprend, nous aussi, à avoir patience envers nos propres péchés, nos propres faiblesses, et finalement nous laisser aimer par Dieu. Donc c'est une super porte ouverte, quoi. C'est merveilleux de s'occuper du pauvre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont mal aujourd'hui. S'ils s'occupaient davantage des autres, ils iraient mieux. C'est paradoxal, mais je crois vraiment.
Vous écrivez, la rencontre avec Gabriel est devenue un virage dans ma façon de vivre avec Dieu. Pour quelle raison ?
Quand Dieu a mis un garçon de 12 ans sur mes épaules un soir, c'était une croix et une joie. Et dans ce livre, je raconte effectivement que je me suis senti tellement pauvre et tellement incapable de tourner cet enfant vers le bien et vers l'amour que, en fait, ça m'a plongé deux fois plus dans la prière. Et c'est vrai qu'en devenant responsable d'un enfant SDF, Dieu a tourné mon cœur vers la prière et vers l'adoration. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé spontanément, en fait. Ça m'a d'ailleurs fait connaître une communauté nouvelle, la fraternité monastique de Jérusalem, où j'ai emmené l'enfant souvent prier à Paris. Donc c'est vrai, ça a tourné mon cœur vers la prière, vers la communion des saints aussi.
Alors justement, à propos de la communion des saints, vous racontez quelques anecdotes. Alors comment les saints vous ont-ils aidé, vous ont-ils soutenu dans cette mission ?
Celle que je peux vous raconter, c'est la paternité de Saint-Joseph. Je suis entré un jour dans une église avec cet enfant. Depuis 9 jours, je faisais une neuvaine à Saint-Joseph. Je priais Joseph d'intercéder auprès de Dieu. Et puis au 9e jour de la neuvaine, j'ai emmené l'enfant dans une église. L'enfant ne connaissait rien à la vie spirituelle. C'était au début de notre rencontre, quand il était vraiment dans la rue. En passant dans l'église, je lui montre les différentes statues. Et il s'arrête tout d'un coup auprès d'une statue. Et il me dit, tiens, c'est lui cette nuit qui est venu me parler dans un très beau rêve. Alors moi, je fais le naïf et je lui dis, c'est qui lui ? Et l'enfant me répond, je sais pas qui c'est, mais ce que je sais, c'est que c'est lui. Et il était dans une lumière éclatante et il m'a dit, je te prends sur mon cœur et je ne te quitterai jamais. Et cette statue, c'était celle de Saint-Joseph. Et vraiment, c'était un éclat dans la communion des saints, ça m'a fait pleurer. Et le soir même, je suis rentré chez moi, j'étais logé dans un presbytère, et un prêtre m'écrit un petit mot dans ma boîte à lettres, il me met, nous venons de trouver un appartement pour Angèle et sa maman. Ça m'a semblé être la charité, elle est effective, vraiment entre les saints du ciel et les saints de la terre.
En reprenant le terme de Saint-Exupéry, vous dites que vous avez dû apprivoiser Gabriel. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer
Cet enfant, même si au départ il a été vite touché par Dieu, il était sauvage, c'était un petit poulebeau. J'ai dû effectivement m'apercevoir que c'était lui qui avait les rênes dans le binôme. C'était pas moi l'éducateur au début, c'était lui parce qu'il me demandait rien après tout. Moi je l'ai rencontré, il était dans la rue avec sa maman et il était méfiant. Et puis, je suis tombé sur cette parole très belle de Saint Paul qui dit « Je me suis fait grec avec les grecs, je me suis fait juif avec les juifs, pour gagner les juifs et pour gagner les grecs au Christ. » Et moi, j'ai compris que je crois que dans l'évangélisation, il faut savoir se mettre à la table des païens. C'est ce qu'a fait Jésus, on lui a reproché d'ailleurs. Il faut savoir se mettre à la table des petits. Don Bosco disait « Il faut s'adapter au goût. S'ils jouent au billes, il faut savoir jouer au billes avec eux. » C'est pas très marrant, parce qu'on n'a pas trop envie quand on a fait 9 ans de séminaire. Mais j'ai dû apprivoiser cet enfant jour après jour, jusqu'au jour où ils me disent « Ah ben je vais pleurer si tu pars ». Et là on arrive à ce nœud important dont Don Bosco parlait, c'est-à-dire il disait « Tant que la confiance de l'enfant n'est pas dans ma main, je peux rien faire. L'oiseau est sauvage et il peut s'envoler ». Donc ce temps d'apprivoisement est nécessaire. C'est pour ça que c'est bien de crier le kérigme, dans l'évangélisation. Mais il faut aussi ensuite qu'il y ait une deuxième partie qui est de montrer par la charité, par l'amour et l'apprivoisement patient qu'on aime ces gens qui sont des images de Dieu, mais qui ne le savent pas.
J'en viens à vous poser une question sur l'éducation. Certainement, un grand nombre d'éducateurs ou de parents se demandent quelle est la clé pour éduquer les enfants. Alors vous, quelle réponse vous donnez à ça ?
C'est dur de synthétiser parce que c'est vaste l'éducation. Moi, je suis toujours très sensible à un préambule qu'on trouve beaucoup dans l'éducation juive. Ils définissent ce fondamental comme ça. Ils disent « L'éducation juive, c'est le renoncement volontaire par l'enfant à son illusion de puissance. » Ils veulent dire par là que c'est d'abord d'apprendre l'humilité à l'enfant, lui apprendre qui il est, immensément aimé de Dieu, et qui il n'est pas, un despote qui va faire sa loi. Ils sont immensément aimés, ces jeunes délinquants, mais Dieu attend d'eux quelque chose. Leurs frères attendent d'eux quelque chose. Ils ont des droits, ils ont des devoirs. Et je crois que cette humilité fondamentale, c'est la clé de l'éducation. Apprendre à l'enfant qu'il est une créature de Dieu superbe, mais qu'il peut faire du mal. Et puis ensuite, le responsabiliser dans la vie spirituelle. C'est-à-dire lui montrer qu'on ne va pas pouvoir tout faire pour lui. On va lui apprendre, ça c'est la tradition religieuse qu'on va donner, mais que le but c'est qu'il s'ouvre lui-même au Saint-Esprit. Donc l'humilité fondamentale pour la sagesse, et puis ensuite de tourner son âme vers la confiance totale en Dieu. Et ça enlève beaucoup d'angoisse d'ailleurs.
Vous évoquez également dans votre livre les blessures de l'enfance. Selon vous, quelle est la différence entre deux enfants blessés, l'un qui a fait une rencontre avec Dieu et l'autre pas ?
C'est ce que je raconte au début du livre. Je raconte plusieurs itinéraires d'enfants blessés, celui d'un ennemi public numéro 1 en France, Jacques Mesrine. Quand il était enfant, il écrivait sur ses cahiers d'école qu'il était à l'école du vice et de l'embrouille. On pourrait regarder aussi l'itinéraire de Van, ce petit prophète vietnamien, qui a été aussi à l'école du vice et de l'embrouille. La seule différence, c'est que l'un n'a pas trouvé Dieu sur son chemin, parce qu'on ne lui en a pas parlé, probablement. L'autre a rencontré des gens qui lui ont parlé de ce Dieu d'amour. Je dirais que les blessures d'enfance sont les mêmes, mais il y en a qui s'infectent et qui deviennent des pistes d'atterrissage aussi pour les esprits de mort, des esprits de destruction. Ensuite, le remède à ça, c'est d'offrir à tous les jeunes qui souffrent une culture de Pentecôte, de travailler une culture de Pentecôte pour que l'Esprit-Saint, lui, se pose sur cette culture de Pentecôte. Et selon ce qu'on va labourer dans le cœur des jeunes, ben soit c'est les esprits de mort, soit c'est la destruction et les ténèbres qui rentrent dans ce temple de l'Esprit, soit c'est l'Esprit-Saint qui vient. Nous, on est responsables au moins de labourer pour prédisposer le terrain, quoi, du cœur de l'enfant.